notre temps d'enseignement pour aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment. Merci Seigneur d'être avec nous ce matin. Nous savons que ce rendez-vous, tu nous l'as fixé de toute éternité. On n'est pas ici strictement parce qu'on en a pris la bonne habitude, parce qu'on a du temps à occuper. Mais nous sommes ici parce que nous comprenons combien il est important de chercher ta face et de recevoir de toi une nourriture adéquate en ce début de journée. Plusieurs ont rebaptisé cette rencontre comme un déjeuner spirituel. Alors merci Seigneur de nous abreuver, merci Seigneur de nous nourrir et de nous donner Seigneur ce que notre âme a besoin. De toute éternité, tu savais les mots qui seraient prononcés ce matin. Tu savais les textes qui seraient étudiés, tu savais les sujets qui seraient abordés. Donc merci Seigneur d'avoir pensé à nous et merci d'avoir préparé cette nourriture pour nous. On te demande Seigneur de bénir toutes les personnes qui écoutent en direct, de façon simultanée, mais aussi de bénir toutes les personnes qui écouteront par la suite. On a une pensée particulière pour le pasteur Giacomin ce matin qui subit un petit traitement. On te demande, Seigneur, d'être avec lui, de faire en sorte, Seigneur, que cette infiltration, que ces injections, Seigneur, soient décuplées au niveau de l'efficience, afin, Seigneur, que toute douleur s'estompe et que ton serviteur, Seigneur, ait encore plus d'aisance pour se mouvoir et pour faire ses différentes activités. Donc, merci de prendre contrôle. Enlève toute crainte. Enlève, Seigneur, toute maladresse que pourrait avoir le corps médical, mais que les mains, Seigneur, des médecins ou autres personnels soient placées sous le contrôle de ton esprit. Alors, merci d'être avec nous. Prends contrôle de ce temps et que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, encore une fois, bienvenue parmi nous. On ouvre, bien sûr, dans Tite au chapitre 2. Dans le verset 11 et 12 qui nous disent « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Je répète les deux versets. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Alors que le Seigneur puisse bénir sa parole ce matin. Je mets ma Bible de côté ici parce que j'ai mes notes devant moi, mais tout à l'heure, je vais y retourner pour les deux lectures en fin de séance. Donc, ce matin, ce que nous voyons, après avoir vu que la grâce hier nous enseignait à renoncer à l'impiété, elle nous enseigne aussi un deuxième renoncement qu'on aborde ce matin, donc le renoncement aux convoitises mondaines. La grâce nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Simplement pour rappeler les termes qu'on a étudiés hier, notamment au niveau d'enseigner et renoncer. Enseigner, c'est le terme paideo, duquel on a tiré le terme pédagogique et pédiatre, donc éducation et enfant. L'enfance étant cette période où naturellement nous sommes dans une grande phase d'apprentissage, même si en tant qu'enfant de Dieu, on devrait rester enseignable et dans un contexte d'apprentissage jusqu'à ce qu'on soit là-haut. La Bible nous dit que pour l'instant, tant que nous sommes ici-bas sur terre, nous ne connaissons que partiellement et sommairement, mais que toutes choses nous seront révélées lorsqu'on sera avec lui pour l'éternité. Donc, tant qu'on est ici-bas sur terre, on doit s'assurer de rester de bons étudiants de la parole et de bons étudiants auprès de notre Maître Jésus. Donc, enseigner voulait dire instruire, discipliner et sanctionner. C'était non seulement des connaissances qu'on acquérait, C'était aussi une discipline dans le sens de mode de vie, d'hygiène de vie, de structure de vie qui nous était octroyée par l'étude de la parole de Dieu. Mais aussi la grâce sanctionne ce qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. La grâce nous permet de connaître, de savoir ce que Dieu approuve de ce qu'il désapprouve. Renoncer, donc elle nous enseigne à renoncer. Renoncer arneomai, qui veut dire un nouveau commencement. Et la grâce devrait susciter effectivement chez nous un nouveau commencement. Il devrait y avoir une cassure évidente entre la vie que nous avions auparavant et notre nouvelle naissance et notre nouvelle vie en Jésus. Donc, arneomai, qui voulait dire recommencer à neuf, qui voulait dire quitter un statut précédent, préalable, vers un nouvel état, qui voulait dire aussi refuser les choses du passé et s'opposer aux pratiques qui étaient nôtres auparavant. Aujourd'hui, deux termes importants, convoitise, épithymia, je vais le répéter tout à l'heure, et convoitise mondaine, qui vient du terme grec cosmikos. Donc, épithymia, E-P-I-T-H-Y-M-I-A, je répète, E-P-I-T-H-Y-M-I-A. Épithymia est constitué de deux racines grecques. Tout d'abord épi et par la suite thymia. Donc épi, c'est un terme qui veut dire en surface, qui veut dire au-dessus. De épi, on a parlé de l'épicentre, donc du point central d'une chose. Mais l'épicentre n'est jamais en profondeur. Quand on parle d'un épicentre pour une tempête ou autre, c'est toujours en surface de la tempête. Les secousses, les séquelles sont vers l'extérieur, mais elles se trouvent en la surface de la tempête. Lorsqu'on parle d'épi aussi, on parle notamment d'épiderme, donc la peau, la surface de la peau. Donc épi, au-dessus, à la surface, en outre, et de surcroît à ça, thymia, qui va venir d'un mot de la même racine qui s'écrit thym, T-H-Y-M, qui va vouloir dire l'humeur, la volonté de quelqu'un, le cœur dans le sens des sentiments, des émotions, des sensations. Et il va aussi avoir un terme particulier qui va vouloir dire un sacrifice de fumée. Et ça va devenir un point important tout à l'heure dans l'explication de notre verset. Donc, thym, sacrifice de fumée, l'humeur, la volonté humaine, le cœur, donc le centre des émotions, des sensations, des humeurs de la personnalité. Mondaine, cosmikos. De cosmikos, on ne parle pas du cosmos qui parle des planètes, de l'espace et tout ça, mais cosmikos pour cosmétique. Donc les choses qui sont la parure, l'ornement, les choses qu'on voit, qui sont visibles. Donc on parle essentiellement de l'apparat que quelqu'un peut avoir. Et bien sûr, donc de cosmos, on a sorti tout ce qui était d'ordre cosmétique, donc le maquillage et autres parures que nous pourrions avoir. Et là encore, ça va être un point important de notre enseignement. Donc j'ai sorti 7 points. Qui vont nous parler de ce que la grâce nous enseigne à renoncer au niveau des convoitises mondaines. C'est cette connotation de ces deux termes, cette interprétation qu'on pourrait avoir de convoitises mondaines qui vont nous donner peut-être des pistes de réflexion quant à nos propres vies, à savoir est-ce qu'on a abandonné ceci ou cela, ou est-ce qu'on est encore affecté par telle ou telle sphère de notre existence. Donc, quand on parle de convoitise mondaine, on parle tout d'abord de ce qui se voit. On a vu tout à l'heure que c'était quelque chose qui était à la surface, quelque chose qui était au-dessus. Donc au-dessus dans le sens où ça sort du lot et on peut le remarquer. La grâce nous enseigne à renoncer aux choses qui se voient. Il y a certaines personnes qui sont interpellées par les choses visibles de la vie spirituelle de quelqu'un. Je me rappelle que en grandissant, j'entendais les gens qui priaient et parfois qui priaient à haute voix dans l'assemblée. Il y avait des gens, lorsqu'ils se mettent à prier, c'est tellement poétique. Et moi, je regardais mes prières avec mes mots d'un enfant qui acquiert un certain vocabulaire, et je trouvais les autres qui priaient avec tellement de grâce, tellement d'aisance, tellement de beauté, alors que moi, j'avais de la misère à aligner un ou deux mots de suite pour que ça fasse du sens à mes oreilles. Mais je ne suis aucunement en train de porter un jugement de valeur sur la prière de ces gens-là, parce que les connaissant encore aujourd'hui, je suis convaincu qu'ils étaient sincères et qu'ils le sont toujours. Mais la Bible va nous parler dans certains cas de gens qui vont avoir de l'extravagance dans leur prière, mais dont le seul désir, c'est d'attirer le regard des gens, d'attirer l'attention humaine. Alors, notre vie spirituelle ne devrait pas être une vie qui cherche tout simplement à attirer le regard, à attirer l'attention. Plusieurs personnes vont prier avec véhémence, plusieurs personnes vont même pratiquer parfois le ministère, et le seul objectif qu'ils ont dans leur pratique ministérielle ou dans leur pratique de ce qui serait soi-disant des dons spirituels, c'est en fait d'attirer le regard. Il y a des gens qui estiment avoir le don de prophétie, mais foncièrement, la seule chose qu'ils cherchent, c'est attirer l'attention des gens pendant un certain moment de l'assemblée ou pendant un certain culte, ou attirer tout simplement l'attention pour que les gens viennent à eux pour recevoir quelques indications. Et foncièrement, la pratique qu'ils ont à ce moment-là, ça devient pratiquement, et je le dis entre très gros guillemets, ça devient pratiquement du Nostradamus chrétien. Ils parlent à haute voix, mais l'objectif, c'est que les gens posent leur regard et leur attention sur eux pour que éventuellement les gens viennent à eux pour dire « Mais est-ce que le Seigneur t'a pas dit quelque chose pour moi? Est-ce que le Seigneur t'a pas parlé pour moi? » Et ce faisant, parce que ce genre de prophète se doit d'avoir des réponses à tire-larigot, mais très souvent ils vont se mettre à falsifier, à être des faussaires de la parole de Dieu ou du réma de Dieu. Et la seule chose qu'ils espèrent, c'est tout simplement attirer l'attention des gens. Alors faisons attention de ce que dans notre vie spirituelle, que ce soit parce qu'on élève la voix, que ce soit de la manière dont on chante, de la manière dont on prêche, de la manière dont on s'exprime, faisons attention que l'objectif de notre vie ne soit pas d'attirer l'attention des gens, mais plutôt attirer l'attention de Dieu. Donc, il y a des gens qui, premièrement, s'arrêtent strictement sur ce qui se voit. Ce qui se voit, lorsqu'on revient au terme épiderme, c'est ce qui est superficiel. Lorsqu'on parle d'avoir une vie spirituelle qui est superficielle, c'est une vie dont la parabole de la semence nous parle comme étant ce terrain dans lequel il est tellement dur que les racines ne peuvent pas creuser le sol. Ça commence à pousser, mais ça reste en surface. La parole de Dieu reste en surface. Et il y a certaines personnes qui ont effectivement ce genre de vie spirituelle où tout n'est que superficiel et rien n'est enraciné. Alors faisons attention à ce que notre vie spirituelle ne soit pas dans ce type-là. Donc on a vu tout à l'heure dans le premier point ce qui se voit simplement, attirer l'attention. Mais en deuxième point, quand on parle de convoitise mondaine, on parle de choses qui sont superficielles et non pas de choses qui sont enracinées. Alors quel est ton état spirituel aujourd'hui? Quel est l'état de ta vie spirituelle aujourd'hui? Est-ce que ta vie spirituelle, c'est simplement des choses superficielles ou tu permets à la parole de Dieu de vraiment s'enraciner profondément dans ta vie? Est-ce que les pratiques spirituelles de ta vie visent un enracinement profond dans la parole, dans la présence de Dieu, dans la connaissance de Dieu, où la seule chose qui t'intéresse, c'est de savoir sommairement qui est ce Dieu. Donc si effectivement la grâce de Dieu a eu l'impact qu'elle doit avoir chez moi, si effectivement j'ai compris quelle est cette grâce qui m'a été faite d'être un enfant de Dieu, mon désir en tant qu'enfant de Dieu, mais mon désir aussi en tant que serviteur ou en tant que disciple du Christ, ça devrait être de m'approfondir en lui. Il y a une différence entre un sympathisant et un disciple de Christ. Le sympathisant va tout simplement apprécier la personne de Jésus. Le disciple va vouloir approfondir les connaissances concernant Jésus, va vouloir approfondir sa communion avec Jésus, va vouloir approfondir sa connaissance des enseignements de Jésus. Alors pour toi, où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu es quelqu'un qui se satisfait simplement de lire un, deux versets par jour, puis de faire tes trois prières avant les trois repas, et puis d'arriver à l'église dimanche matin, ou tu as une hygiène de vie conséquent avec la vie de disciple? Le disciple est tout le temps auprès de son maître. Le disciple même va prendre du temps pour s'asseoir au pied du maître, juste pour écouter le maître, même si le maître ne s'adresse pas à lui, mais simplement pour l'écouter, pour en tirer un enseignement, pour en tirer un approfondissement dans sa connaissance de son maître. Donc une grosse différence entre le sympathisant et le disciple. Et malheureusement, je crois que plusieurs personnes se leurrent eux-mêmes, se bernent eux-mêmes en prétextant être des disciples, mais foncièrement, ils sont simplement des sympathisants qui n'ont aucun intérêt, aucun véritable désir d'approfondir leur connaissance de Jésus. Nous ne venons pas à Christ avec la science infuse. Nous ne venons pas à Christ avec une connaissance infuse de qui il est, de ce qu'il veut, de ce qu'il demande, de ce qu'il attend de nous. Cette connaissance vient graduellement, notamment par une inspiration de Dieu, notamment parce que Dieu se révèle à nous, mais la Bible nous dit qu'il se révèle à qui le cherche, qu'il se laisse découvrir par ceux qui le cherchent. Alors si tu ne cherches pas Jésus, ben il se pourrait effectivement que tu ne le découvres pas plus. Alors que plus tu poses ton regard dans sa parole, plus tu approfondis, plus tes racines vont aller profondément dans le sol. Donc ceux qui se voient abandonner le fait qu'on soit tout simplement cherché, qu'on recherche tout simplement l'attention humaine, abandonner aussi ce qui n'est pas enraciné, ce qui n'est pas profond dans la parole de Dieu. Et je ne parle pas ici d'aller dans une théologie tout simplement pour décortiquer, sont-ils un, sont-ils deux, sont-ils trois, puis voir ben, à quel moment est-ce que le salut s'opère, est-ce que c'est quand j'ai accepté Jésus, est-ce que c'est quand il y a la métamorphose et la transformation de ma vie, est-ce que c'est au jour du baptême, est-ce que ça prend le Saint-Esprit, est-ce qu'il faut voilà, ou sinon tout simplement ceux qui veulent à tout prix essayer de déchiffrer les calendriers célestes pour savoir que en 1920 voilà ce qui s'est passé spirituellement parlant dans le calendrier divin ou quoi que ce soit. Non, on n'est pas en train de parler d'une théologie qui sert simplement la connaissance humaine, mais une recherche profonde et sincère à connaître mon Seigneur. Moi, je peux vous dire que depuis ces 4 mois d'enseignement quotidien avec vous, j'en tire moi-même des bénéfices. Je suis, même si je prenais du temps personnel dans la présence de Dieu, même si, puisque je continue mes études, j'étais moi-même, des études en théologie, je parle, j'étais moi-même aussi quotidiennement le nez dans ma Bible, et même si j'ai mon temps de dévotion personnelle qui est à part de la question de l'étude pour préparer une prédication ou de l'étude quant à ma formation personnelle. Je prends un temps où je dis simplement, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux me dire personnellement aujourd'hui? Donc j'étudie la parole de Dieu en ce sens-là. Mais au-delà de ça, mais le fait que je suis avec vous à tous les jours, à vous faire découvrir ou à essayer de vous faire découvrir Jésus d'une nouvelle manière ou d'une façon plus profonde, ben moi-même j'en tire des bénéfices. Donc plus on étudie la parole de Dieu, plus le Seigneur aussi se révèle à nous. Un troisième point, quand on parle des convoitises mondaines, on parle de ce qui est de l'épiderme. Et l'épiderme, c'est cet endroit où les sens opèrent, que ce soit la surface de nos mains, de notre corps, avec tout ce qui est sensoriel. Et il y a des gens qui cherchent davantage le sensoriel en Dieu plutôt que le spirituel. Et laissez-moi être très clair, le Saint-Esprit n'est pas une émotion. Par contre, la présence de Dieu, puisque nous sommes des êtres sensoriels, la présence de Dieu peut susciter des émotions. Mais les émotions finissent toujours par s'estomper. Il y a plus que les émotions. Effectivement, lorsque la présence de Dieu se fait palpable, lorsque la présence de Dieu est présente de façon tangible, et je sais que c'est redondant de dire la présence qui est présente, mais permettez-moi d'utiliser quand même cette expression. Lorsque la présence de Dieu est tellement là, tellement lourde, tellement tangible, oui, ça suscite des émotions chez nous. Il y a des gens qui vont trembler, il y a des gens qui vont être émus jusqu'aux larmes, il y a des gens qui vont être émus avec une allégresse sans borne qui va faire que ils vont élever la voix, exalter le Seigneur. Certains même vont rire d'une joie ineffable ou autre. Mais ça reste des émotions. Ça reste l'épiderme. Donc notre vie spirituelle ne devrait pas se limiter à l'épiderme, ne devrait pas se limiter au sensoriel. Le danger avec ça, c'est que si notre vie spirituelle est basée simplement sur ce que je sens, sur ce que je ressens, ben à ce moment-là, on peut passer à côté de la présence de Dieu, on peut passer à côté de la voix de Dieu, on peut repousser certaines paroles qui viendraient de Dieu, tout simplement parce que j'ai pas senti, j'ai pas eu de frisson, donc Dieu était pas là. J'ai pas eu cette vague de froid qui me secoue le corps, donc assurément le Saint-Esprit n'était pas présent. Et ça, c'est un comportement de jeune, c'est un comportement d'enfant, alors qu'on doit prendre de la maturité. Et la maturité spirituelle fait qu'à un moment donné, je comprends que le Saint-Esprit n'est pas une émotion, qu'il peut susciter toutefois certaines émotions, certaines sensations, mais que c'est bien plus que cela. Ce qui fait que quand je passe dans le désert, même si je ne sens rien, je suis en paix parce que je sais que Dieu veille sur moi et parce que je sais qu'il ravitaille malgré tout mon âme. Il arrive des fois des périodes dans la vie de tous les jours où notre état spirituel passe par ce qu'on appelle un désert, par un espèce de creux. Et si on n'a pas une maturité autre que sensorielle, ben là on va dire, ben on sent rien, il se passe rien, donc tout ce que j'ai connu avant est soit faux, ou sinon Dieu m'a rejeté, Dieu m'a abandonné. Alors il faut être capable d'aller plus loin que simplement la surface qui est sèche et être cet arbre dont la Bible nous dit qu'il tire des racines tellement profondes que même dans les temps de sécheresse, même dans les périodes où la température n'est pas profitable, il maintient un feuillage qui est vert et il porte du fruit en sa saison. Et ça, c'est de ne plus être sensoriel, de ne plus être au niveau de l'épiderme, mais d'être capable d'enraciner notre vie très profondément dans la parole de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai parlé que le terme épithymia et thym nous parlait d'un sacrifice de fumée. Et je pense que c'est une illustration qui est intéressante pour nous aujourd'hui. Un sacrifice de fumée, c'est quoi? C'est un sacrifice qui produit beaucoup de fumée. Mais foncièrement, la base de cette fumée peut être particulièrement vide. un sacrifice de fumée, ben, lorsque je prends de l'eau et que je le jette sur un feu, ben, nécessairement, ça va faire, ou obligatoirement, ça va faire beaucoup de vapeur, beaucoup de fumée. Si je mets des branches, des feuilles mortes sur mon feu, là encore, ça va faire énormément de fumée. Ça fera pas beaucoup de chaleur, mais ça va faire beaucoup de fumée. Parfois, si on met telle ou telle substance sur le feu, ben ça fait beaucoup d'apparence, beaucoup, en bon québécois, beaucoup de boucan, mais ça ne fait pas une source de chaleur et ça ne fait pas que à la base, il y a quelque chose de solide qui amène cette flamme. Donc, il est important pour nous de savoir que nous ne sommes pas là dans un culte sans consistance. Notre culte spirituel devrait être quelque chose de lourd. Notre recherche de la présence de Dieu devrait être quelque chose de lourd et pas tout simplement un écran de fumée. L'image de sacrifice de fumée, c'est cette image de quelqu'un qui offre un culte à Dieu qui est visible partout, pour tous ou par tous parce qu'il voit la fumée qui émane de l'endroit, mais foncièrement, il n'y a pas grand-chose qui brûle. Donc, quel est le sacrifice que tu donnes à Dieu? Quelle est la victime que tu amènes à Dieu? Quel est ce que tu places sur l'autel de Dieu? Est-ce que ça fait bien de la fumée que tout le monde voit, mais que Dieu juge et que Dieu sait que, regarde, ce que tu m'apportes là, ça vaut pas grand-chose, ou ce que tu me donnes là, c'est juste un écran de fumée. Un écran de fumée, ça veut dire, c'est tout simplement de l'apparence. Donc, qu'est-ce que toi, tu mets sur l'autel de Dieu? Mets-tu quelque chose de solide ou mets-tu simplement de quoi pour que les gens aient l'impression que ton culte est peut-être pour te berner toi-même, pour te donner toi-même l'impression que ton culte est profond. Alors ce matin, on est en train de parler effectivement d'avoir un culte solide avec Dieu, d'avoir une relation spirituelle avec notre Seigneur qui est basée sur des choses qui sont solides et non pas sur des choses qui sont éphémères, qui brûlent vite, qui font bien de la fumée, mais qui ont peu de consistance. Lorsqu'on parle de mondain, lorsqu'on parlait tout à l'heure de cosmos, on parlait de cosmikos ou de cosmétique. Donc, d'une parure extérieure. Le maquillage, on ne le met pas à l'intérieur, on le met à l'extérieur. Et ici, on parle tout simplement de trompe-l'œil. Je veux dire, on va se mettre parfois un maquillage pour cacher un bouton. On va se mettre parfois un maquillage pour essayer de cacher un ride ou essayer de cacher une cicatrice, essayer de nous donner un teint qui est un peu plus en santé. Je ne vous le cacherai pas, j'ai devant moi ce qu'on appelle un cercle de lumière ou un espèce de projecteur en rond que je peux régler au niveau de l'intensité. Donc, je peux avoir une lumière qui est beaucoup plus blanche ou je peux avoir une lumière qui est plus ambrée. Et une lumière plus ambrée, comme j'ai actuellement, mais ça me donne une certaine couleur de peau qui est un peu plus bronzée, qui est un peu plus, qui est un peu plus ensoleillée, alors qu'un teint avec la lumière qui serait très blanche, ben là, vous verriez un teint de peau qui est très, très blanc, qui est probablement blême pour certains, mais ça c'est de l'apparence, c'est pas quelque chose de solide, c'est pas quelque chose de vrai, c'est tout simplement l'extérieur, c'est une parure extérieure et c'est un trompe-l'œil. Donc j'ai peut-être pour certains aujourd'hui l'air bronzé alors que je ne le suis pas, c'est juste une question d'éclairage. Et c'est à se poser la question, mais quel est la véracité de ma relation avec Dieu. Est-ce que c'est simplement un trompe-l'œil, comme le maquillage peut l'être? Est-ce que c'est quelque chose que j'essaie de modifier, par mes propres moyens, ou ma vie est effectivement modelée, façonnée, transformée par la main de Dieu? Donc, ta vie spirituelle pourrait être simplement un trompe-l'œil. Maintenant, on passe dans convoitise, dans un autre sens. Convoitise, c'est aussi espérer ou aspirer aux choses de l'autre. Donc, quand je convoite, j'envie l'autre. Alors, est-ce que ma vie spirituelle, est-ce que ma quête spirituelle pourrait être simplement basée sur ce que j'envie de l'autre? Parfois, on rencontre des gens qui regardent les ministères des uns et des autres, qui regardent les talents, les dons des uns et des autres, et au lieu de se préoccuper des propres talents que Dieu a placés dans leur propre vie ou dans leur vie personnelle, ils aspirent aux talents des autres, parce qu'ils estiment que ces talents-là sont plus glorieux, ces talents-là sont plus honorables, ces talents-là sont plus reconnus, sont plus acclamés que les propres talents que Dieu a daigné placer dans leur vie personnelle. Donc, et ce faisant, ils aspirent à quelque chose d'autre spirituellement, mais ce qui les motive foncièrement, c'est pas une croissance, c'est pas un désir de croissance, mais foncièrement, c'est la jalousie. Et ils aspirent aux dons des autres et non pas aux dons que Dieu a pour leur propre vie. Alors je me demande, où est-ce que tu en es aussi dans ce point-là? Se pourrait-il qu'en fait, tu cherches ou tu orientes ta quête spirituelle par rapport aux autres, à ce que tu vois des autres, à ce que tu aspires de chez les autres? Et comprenons-nous, Paul va dire, soyez mes imitateurs comme moi-même, je suis imitateur de Christ. Si Paul imite Christ, ben il n'y a pas de meilleure imitation à avoir et il n'y a pas de meilleur modèle. Et puisque Paul imite Christ, alors nous, si nous imitons Paul, ben on imite aussi Christ. Donc modèle parfait. Ici, on parle d'aspirer à ce que les autres ont et que moi je n'ai pas, et de fonder notre croissance spirituelle et notre évolution spirituelle simplement sur de la jalousie, simplement sur de l'envie, envie des autres, plutôt que sur une aspiration à être pleinement qui Dieu veut que l'on soit. Dernier point, je sais qu'on a dépassé, mais dernier point ce matin, j'aspire à m'approfondir en Dieu simplement par envie de l'autre, ben, il y en a aussi qui ont comme seul désir, comme seul objectif d'attirer l'envie des autres. Donc parfois, je pousse ma croissance parce que j'ai envie de ce que l'autre a. Donc j'oriente plutôt ma croissance ou mon évolution spirituelle par rapport à ce que les autres ont. Mais en certains cas, je suis aussi à l'autre extrémité du prisme, où moi, mon seul objectif, c'est de provoquer l'envie des autres. Et je veux que les gens me regardent pour que les gens m'envient et que les gens m'imitent. Et je veux qu'on se rappelle de moi, et je suis content lorsque je vois que quelqu'un de nouveau dans la foi commence à copier les choses que je fais. Ça me donne une joie, ça me flatte dans le bon sens du poil. Et certaines personnes ne vont chercher simplement qu'à provoquer l'envie des uns et des autres. Ils cherchent pas nécessairement à être efficaces. Ils cherchent simplement à ce que les gens puissent être là en train de languir par rapport à eux, languir par rapport à ce que eux démontrent. Ce faisant, tu fais quoi? Est-ce que tu orientes les gens vers Jésus ou en fait tu orientes les regards vers toi? Et il y a une grande différence entre être égocentrique et égo-Jésus. Est-ce qu'on est dans l'égocentrisme ou on est dans le Jésus-centrisme? C'est mieux dit comme ça. Il y a certaines personnes qui font ce qu'ils font. Il y a certaines personnes qui opèrent comme elles opèrent. Il y a certaines personnes qui prêchent comme elles prêchent. Mais l'objectif foncier n'est pas que les gens copient Jésus, que les gens soient approchés de Jésus, mais que l'attention soit tirée vers nous. Et Paul va dire, la grâce nous enseigne à abandonner la convoitise. La convoitise est tout le temps quelque chose qui est centré sur moi. Que ce soit la convoitise que je suscite ou que ce soit la convoitise que moi-même je manifeste. La convoitise que moi-même je manifeste, je suis en train de dire, je veux ce que lui a. J'ai besoin de ce que lui a. Et la convoitise que je suscite, c'est je veux que tout le monde aspire à ce que moi j'ai. Je veux que tout le monde languisse par rapport à moi. Et ce faisant, nous détournons le regard de celui qui devrait être le centre même de notre existence, Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu que la grâce nous enseigne à renoncer aux choses qui sont tout simplement rechercher l'attention des hommes, à ce qui n'est pas profondément enraciné, à ce qui est tout simplement sensoriel et non pas spirituel profondément, à ce qui serait un culte sans consistance. Ça fait bien de la fumée, ça fait bien des étincelles, mais foncièrement, ça ne dure pas longtemps et ce n'est pas quelque chose de lourd et de consistant. À quelque chose qui est tout simplement une parure extérieure et qui n'est pas quelque chose de profond comme communion avec Jésus. À quelque chose qui, la grâce nous enseigne à renoncer à ce qui est tout simplement une aspiration jalouse de ce que les autres ont, ou simplement égocentrique, là où on attire le regard des autres. Deux passages que j'aimerais partager avec vous rapidement ce matin. Premièrement, dans Matthieu au chapitre 23, voilà ceux qui vont avoir une foi, une spiritualité, une communion avec Dieu, entre guillemets communion, qui est superficielle et qui est basée sur les convoitises de l'homme. Matthieu 23, du verset 25, du verset 25 à 28. Matthieu 23, 25 à 28, on nous dit « Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Ici, on disait que les pharisiens, les scribes, donc les gens qui étaient experts du texte, on disait, vous avez juste l'apparence, vous nettoyez ce qui est à l'extérieur, mais l'intérieur est encore rempli d'iniquité. Il va même pousser plus loin. Au verset 27, Jésus va dire, « Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Donc Jésus va s'attaquer aux pharisiens et aux scribes en disant, toute l'apparence que vous avez à l'extérieur, vous ressemblez à des tombeaux blanchis, à des tombeaux qui sont propres, qui sont nets, mais quand on regarde à l'intérieur, la mort est déjà installée à l'intérieur de vous et la mort n'a pas été déracinée de vos vies, vous en êtes empreint. Dernier passage, dans Timothée, 2 Timothée, le chapitre 3, 2 Timothée 3, le verset 1 à 5, voici ce que Paul dit à Timothée, 2 Timothée 3, 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres emportés, enflés d'orgueil, ayant le plaisir plus que Dieu, donc ayant les choses sensorielles davantage que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Ayant l'apparence d'une spiritualité, ayant l'apparence d'une communion avec Dieu, mais en reniant ce qui en fait la force. Alors je prie que pour toi et pour moi ce matin, nous ne soyons pas dans ce type de personne-là que décrit tant Jésus que Paul en nous disant que nous pourrions être que des tombeaux blanchis ou des gens qui ont l'apparence de la piété mais qui n'en ont pas tout ce qui en fait intérieurement la force. Alors prions et après ça quelques indications pour aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette exhortation qui n'est pas dure en soi mais qui est un rappel clair et précis à s'interroger, à s'introspecter, si on peut dire, à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à te poser la question, Seigneur, ma vie avec toi, ma vie spirituelle, est-elle simplement de l'apparat ou suis-je vraiment en train de m'approfondir en toi? Le sacrifice que je présente devant toi, est-ce que c'est simplement un écran de fumée ou c'est quelque chose de solide? dans lequel tu te réjouis, qui t'est agréable. Est-ce que je cherche, Seigneur, davantage l'attention des hommes, que ce soit les hommes de l'extérieur ou les hommes au niveau de l'Église? Est-ce que je cherche davantage la reconnaissance humaine ou je cherche foncièrement ton approbation? Seigneur, nous ne voudrions pas être comme ces pharisiens et ces scribes dont tu décrivais l'attitude, Seigneur, qu'ils étaient comme des tombeaux blanchis, des gens qui nettoyaient l'extérieur mais pas l'intérieur, et dont l'intérieur était déjà souillé et contaminé par la mort. Seigneur, nous prions de ne pas être comme ces gens dont tu dis que dans les derniers temps, ils seront nombreux, qui auront perdu la véracité de la foi, qui auront l'extérieur, les apparences d'être pieux, mais qui à l'intérieur n'ont pas ce qui en fait la force, ce qui fait la force d'une relation intime avec Christ. Alors Seigneur, nous prions que ce ne soit pas notre cas. Nous prions que cette semaine, Seigneur, tu puisses nous parler effectivement quant à approfondir nos racines en toi et quant à avoir, Seigneur, ces moments intenses en ta présence. Que nos sens puissent être émus ou pas, c'est pas important. Nous voulons que notre âme et notre esprit soient vivifiés par ta main toute puissante. Seigneur, nous pourrions être en ta présence et n'avoir aucune sensation physique, émotive, sensorielle ou autre. Et c'est pas important. Ce qui compte, Seigneur, c'est que notre âme et notre esprit, Seigneur, soient touchés par ta main toute puissante. Alors nous prions, Seigneur, que tu touches notre sœur ce matin et qu'elle puisse chercher à avoir cette soif, ce désir profond de communion intime et lourde avec toi. Je prie qu'il en soit de même pour mon frère, que ce ne soit pas simplement une communion, une spiritualité d'apparence pour que les gens les voient ou pour se conforter soi-même, mais que ce soit quelque chose que toi tu approuves, une vie sur laquelle tu peux apposer effectivement ton sceau de grâce et ton sceau d'approbation. Alors merci Seigneur de te révéler à nous, merci de nous parler de façon distincte et précise à chacun d'entre nous. Révèle-nous Seigneur la véracité de notre cœur, révèle-nous Seigneur ce qui ne te plaît pas, afin Seigneur que les choses puissent changer et être transformées. Nous t'avons prié avec cette assurance que tu entends, que tu prends soin de nous et que tu réponds encore aujourd'hui. Nous t'avons prié en ton nom Jésus. Amen. Alors simplement vous rappeler les inscriptions pour l'assemblée de dimanche. Si vous avez au-dessus de 30 ans, on vous exhorte à nous appeler pour réserver une place. Il reste encore de la place pour dimanche. Donc pour ce faire, vous appelez soit au numéro de l'église au 514-273-8295 et vous laissez un message sur la boîte vocale en nous indiquant votre nom, votre numéro de téléphone où on peut vous rejoindre pour confirmer votre présence. De même que le nom des personnes qui vous accompagnent. Bien sûr, les personnes qui vous accompagnent doivent aussi avoir plus de 30 ans. De surcroît à cela, vous pouvez aussi le faire via courriel. Donc, vous nous écrivez à secrétariat EAJC@commercial.gmail.com. Et là encore, vous nous donnez votre nom. Vous nous dites que pour l'assemblée de dimanche, on va être, je crois, le 26, si je ne m'abuse, ou le 23. C'est pas clair. On va être, c'est ça. Pour dimanche prochain, vous chercherez le je crois qu'on est le 23. Pour l'assemblée de dimanche, et vous dites votre nom, votre adresse courriel, s'il vous plaît, vous l'écrivez, pour que là encore, on puisse confirmer avec vous. Et puis, vous nous donnez le nom des personnes qui vous accompagnent. Alors, je pense que c'est tout pour ce matin. Juste quelques salutations pour des personnes qui nous auraient rejointes depuis le début de notre intervention. Vous êtes nombreux ce matin. Parfois, on prend... Je sais qu'on est rendu à 9h15. Je me dépêche. Donc, on a Farley, Marie-André, Didier, Agbagne. On a la sœur Jocelyne, le frère Jacques, on a la sœur Lise Goudreau, on a la sœur Denise Saint-Louis et la sœur Denise Gaudreau, on a Diana Herway, on a la sœur Gloria de Ouagadougou, on a le frère Alexandros, on a la sœur Nina, le frère Rigoberto, on a la sœur Sylvia, on a la sœur Josette Valetudi, on a Maria Inostrosa, et ça c'est Consuelo et Jean-Bernard à Trois-Rivières, on a Juan Alberto Vargas, qui d'autre? Je pense que c'est tout pour ce matin, oui. Donc sur ce, on vous salue tous, passez une bonne journée, on se retrouve demain matin, 8h30, pour compléter nos bénédictions matinales de cette semaine. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse et approfondissez-vous en Jésus. Rendez-lui un culte qui soit pas simplement des feux d'artifice et puis de la fumée, mais allez profondément dans la présence de Dieu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain matin. N'oubliez pas d'appeler ou d'écrire pour vous inscrire pour l'assemblée de dimanche. Soyez bénis.